There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
C'est pas possible, et c'est bien pour ça qu'on veut essayer de le faire. Parce que si on faisait que des trucs qui étaient possibles, eh ben on ferait des jeux de merde.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Christophe Balestra. Christophe a passé 15 ans chez Naughty Dog, le studio de jeux vidéo auquel on doit des chefs-d'œuvre comme Uncharted et The Last of Us. Il en était le coprésident jusqu'à son départ cette année. On parle de trouver sa passion, il donne ses conseils à ceux qui souhaitent se lancer, il explique la philosophie qui a permis à Naughty Dog de produire des jeux cultes, et c'est une philosophie qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Depuis qu'il a quitté Naughty Dog, Christophe a couru 3 Ironman, on parle de lui et de sa poursuite du défi. Comme il dit, si tu y arrives du premier coup, tu n'as pas visé assez haut. Mes excuses d'avance pour le son de cet épisode, la discussion a eu lieu sur Skype et j'ai fait une petite erreur qui rend le son moins bon que d'habitude. J'espère que vous me pardonnerez. Pensez à vous abonner sur iTunes, Apple ou toute application de podcast, ça m'aide énormément et bonne écoute. Salut à tous ceux qui écoutent, je suis avec Christophe Balestra. Salut Christophe.
Salut, merci de m'accueillir.
Bah écoute, je suis super content de t'avoir. En fait, je ne sais vraiment plus du tout comment j'ai vu ton nom quelque part. Je me demande si quelqu'un m'a parlé de toi, si on a échangé des messages. Mais je sais que du coup, je t'avais noté, parce que j'étais allé voir, j'ai pas trop creusé, mais je t'avais noté. Et cette semaine, je regardais un peu qui j'avais noté et je vais voir... Et je vois Christophe Balestra était coprésident de Naughty Dog pendant 15 ans. Et je dis, attends, mais Naughty Dog, c'est ceux qui ont fait Jack and Dexter, c'est ceux qui ont fait Crash Bandicoot, et surtout, c'est ceux qui ont fait... Bon, vous avez fait Uncharted aussi, et puis vous avez fait The Last of Us, qui reste le dernier jeu de ouf auquel j'ai joué, quoi. Et j'étais trop content, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop bien, il a fait ces jeux-là. Donc, pour rappeler... Donc Naughty Dog, c'est un studio de développement de jeux vidéo qui a été créé en fait il y a assez longtemps, qui s'appelait Jam Software avant.
Ouais. Et qui est passé par différents stades et qui a été racheté par Sony en 2001, je crois.
Mm-hmm. C'est ça. Ouais.
Et toi, t'es arrivé là-bas en 2002 à l'époque comme développeur.
Ouais, je suis arrivé là-bas en tant que programmeur. J'étais juste super content de pouvoir trouver un boulot là-bas et de pouvoir bosser sur des jeux auxquels j'aimais jouer, ce qui était vachement important pour moi. Et puis surtout, j'avais l'impression qu'en allant là-bas, j'allais bosser avec des mecs qui étaient vachement talentueux et qui étaient vachement en avance sur leur temps. Et ça me plaisait vraiment, quoi, de pouvoir apprendre beaucoup de choses au contact de ces gens-là.
T'étais déjà un passionné de jeux vidéo à l'époque?
Ouais, en fait, moi, ma passion première, c'est la programmation. C'est comme ça que je suis rentré dans le milieu du jeu vidéo.
T'as commencé à 15, 16 ans, c'est ça?
J'ai commencé 15, 16 ans, j'avais un Atari ST et je sais pas si t'as déjà entendu parler de la démoscène. Je faisais des démos sur mon Atari ST, après mon Amiga, après mon PC, etc. Avec
c'est
des
quoi,
potes.
C'est quoi des démos?
Des démos, c'est un petit peu comme un clip vidéo, en temps réel. Donc, tout est programmé, tout est généré en temps réel à 60 images par seconde, etc. Mais avec des machines qui étaient vachement plus petites, même beaucoup moins performantes qu'un téléphone aujourd'hui, quoi. Il fallait tout faire de zéro, quoi. Mais c'était une super école. Pour moi, la démo scène m'a amené plein de choses, quoi.
Attends, mais j'interromps beaucoup les gens de l'histoire, j'interromps trop cette nouvelle école, mais c'est parce que j'ai trop de questions. T'as quitté Naughty Dog vers avril, je crois, 2017,
ouais.
Si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Et pour te reconcentrer sur toi, sur ta famille, sur différents projets qui te tiennent à cœur et voir ce que t'as envie de faire ensuite. Mais attends, quand tu commences à coder et que tu commences à faire des jeux, parce que là, d'accord, après, donc il y a eu Jack and Dexter, il y a eu Crash Bandicoot, il y a eu Uncharted, vous avez eu tous les awards de tout ce qui était possible d'avoir, il y a eu The Last of Us. Les jeux vidéo, c'est un secteur gigantesque maintenant, que ce soit avec le e-sport, mais même les jeux qui continuent à sortir sur les consoles. Mais à l'époque, ça existait pas autant que maintenant, et puis même la programmation, c'était pas vraiment un métier. Donc quand tu t'es mis à coder vers 15-16 ans et que tu t'es mis à faire des démos et que tu à un moment juste après plus tard t'as monté ta première boîte, déjà d'une ça devenait d'où de te lancer là-dedans, et surtout est-ce qu'il y a pas eu un moment où les gens autour de toi ou tes parents se sont inquiétés, quoi?
Le but premier, c'était pas de faire des jeux vidéo. Le but premier, c'était d'apprendre à programmer. C'était ça qui me plaisait, qui me passionnait. J'aimais le côté technique de la chose. J'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt matheux, etc. Quoi. Donc, ça m'a plu dès le début, quoi. Après, faire des démos, ce qui était vachement intéressant, c'était, et ça, je crois que ça a été vrai toute ma carrière, c'était travailler avec des gens qui avaient un talent qui n'était pas le mien, en fait. Travailler avec des gens qui avaient un talent artistique, avec des gens qui faisaient de la musique, etc. Je trouvais ça, la collaboration me plaisait énormément, en fait, quoi. Donc c'est pour ça que la démo, ça m'a appris énormément de choses aussi à ce niveau-là. On m'a dit à un moment, ouais, tu feras certainement des jeux vidéo, mais moi j'y croyais pas trop. Je pensais pas être assez bon, en fait, pour pouvoir faire des jeux vidéo, ou je savais pas comment y arriver ou comment en arriver là. Donc pour moi, ça n'a pas été vraiment un truc au début qui était ma première motivation. Ma première motivation, c'était d'apprendre à programmer, et après on verra, quoi. Et oui, mes parents, mon père s'est inquiété parce que c'était un métier qui n'existait pas. Et quand je lui ai dit un jour, je crois que je vais arrêter, j'arrête les études juste pour me lancer dans le milieu des jeux vidéo et faire des jeux vidéo, ça l'a un peu perturbé parce que. La génération de nos parents, ils savent pas ce
qu'il faisait. Il faisait quoi, lui?
Il était directeur d'un entrepôt qui gérait les pièces détachées pour les machines de travaux publics. Donc, tu vois, rien à voir, quoi. Donc, forcément, le côté technique, il connaissait pas. Et puis, c'était un monde auquel il avait jamais été vraiment exposé. Donc, c'était forcément un peu inquiétant en tant que parent de voir son fils aller vers une voie qui était en train de se créer, en fait.
Mais toi, tu t'inquiétais pas à cette époque-là? T'étais assez serein sur ce que tu faisais?
J'ai jamais été vraiment ambitieux, on va dire, dans le sens où je regarde jamais si je fais quelque chose sur le moment, j'essaie pas de savoir ce que ça va m'amener dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 10 ans, en fait.
Pas carriériste, tu veux dire ça?
Ouais, j'aime faire les choses qui me plaisent maintenant, parce que j'apprends quelque chose, parce que je travaille avec des gens intéressants, parce que je travaille sur un projet qui, je pense, va faire une différence, ou qui est vraiment excitant pour tout le monde, quoi. Donc c'est tout, quoi. Après, ça m'amène ou ça m'amène, mais j'ai jamais vraiment fait. Je suis vachement dans le moment, quoi. Et dans le même sens où je regarde pas trop vers l'avenir, et dans le même sens où j'oublie vraiment ce que j'ai fait et je laisse derrière moi ce que j'ai fait en fait rapidement aussi quoi. Je suis pas là à me dire waouh, c'était génial ce que j'ai fait et je vais repenser à ça pendant des années parce que c'était super cette époque là quoi.
C'est t'es naturellement très dans le moment présent, c'est ça?
Ouais, généralement ouais, c'est plutôt quel est le problème à résoudre là maintenant, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant et comment est-ce qu'on peut faire que ça soit résolu ou mieux ou et c'est généralement la motivation, c'est pour le projet quoi. C'est pas autre chose quoi.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur la nouvelle école, il y a plein d'entrepreneurs qui passent et toi en fait, t'as été c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler de tout ça. T'as été salarié en fait d'une grosse boîte, mais avant ça, t'étais entrepreneur quoi. T'as monté ton propre truc, ça s'appelait Railand, je crois.
Ouais, Railand Interactive, ouais.
Railand Interactive, mm-hmm. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous vous étiez mis vraiment en mode garage, je crois. Vous étiez dans le, t'avais emménagé avec ta femme, je crois.
Ouais.
Et vous vous étiez mis dans le salon, carrément, quoi.
C'est ça. Ouais, on a emménagé ensemble et quelques semaines après, j'ai pris d'assaut le salon en mettant 3-4 bureaux avec des ordinateurs et tout. Et enfin, elle a été super cool. Elle a compris, quoi. Enfin, que c'était qu'on se lançait et que voilà, quoi. Faut bien démarrer d'une manière ou d'une autre quoi, de toute façon quoi. Et donc enfin elle a toujours été super m'a toujours supporté, enfin on est toujours ensemble hein, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble quoi, donc et voilà quoi, c'était ouais, ça a commencé en bas de l'échelle avec avec pas grand chose quoi, et en commençant déjà à faire des sacrifices quoi.
Du coup, quand tu dis des sacrifices, tu veux dire dans quel sens?
Ben des sacrifices ou dans le sens où tu vas mettre en avant ta passion, ce que t'aimes faire, où tu vas envahir ton espace personnel, où tu vas travailler, même si ça, t'as pas l'impression que tu travailles, mais tu passes énormément de temps à faire ça au lieu peut-être de pouvoir sortir et aller dîner avec ta femme ou passer ton dimanche à aller je sais pas dehors, enfin il y a j'ai dû faire pas mal de sacrifices comme ça toute ma vie quoi pour
vivre ma passion. Tu vois que c'était des sacrifices?
Je pense que les gens peuvent le voir comme ça, mais quand tu le vis bien toi et que ta famille aussi voit que tu le vis bien et que ils sentent bien que tu fais quelque chose qui te rend heureux, je pense que ça change tout quoi. Si jamais tu fais des sacrifices parce que tu vas travailler et que tu rentres chez toi le soir et que t'es déprimé et que ça te plaît pas et que les gens avec qui tu bosses ça se passe pas bien, ouais, là c'est un vrai sacrifice parce que là tout le monde souffre en fait au final quoi. Mais bon, là c'est un sacrifice au niveau du temps passé en fait dans ce que j'aimais faire et qu'aurait peut-être pu être partagé un peu mieux avec le côté famille quoi. Mais bon, ma femme a toujours été est super pour ça. Même mes enfants, j'ai 3 enfants, mon plus grand a 18 ans. Et ils ont toujours compris, il n'y a jamais eu de problème.
Ouais, ça pourrait presque même être considéré comme une chance. Enfin, t'as l'air d'avoir trouvé très très tôt ce que t'aimais faire. Et du coup, peut-être que dans la balance, l'équilibre entre sacrifice et passion, forcément, je pense que la passion a tendance à prendre un peu le dessus, quoi. Parce que comme tu fais un truc qui te tient vraiment à cœur, c'est plus facile de justement faire ces petits sacrifices à côté.
Non, ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est exactement ce que t'as dit quand t'as commencé ta question. C'est le fait d'avoir trouvé une passion rapidement, en fait. Et je vois plein de gens aujourd'hui, d'adolescents ou qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je pense que c'est dur en fait, je trouve ce côté-là. Moi je pense que la seule chance, je crois pas trop en la chance. Je crois que la seule chance que j'ai eue, c'est de trouver quelque chose qui me plaisait relativement jeune et de pouvoir m'y mettre à fond en fait. Et après de là c'est beaucoup
pourquoi
plus
pourquoi il y en a qui n'ont pas cette chance, tu penses? Parce que c'est vrai que c'est un gros problème, c'est un truc qui revient énormément dans ce podcast, c'est la difficulté à trouver ce qu'on aime et à trouver quelque chose qui nous fait vibrer en tout cas.
Ouais, déjà moi je pense qu'il y a peut-être un côté, il y a une certaine personnalité. Comment sont les gens? Il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques, à essayer, etc. Je dis toujours que c'est important de savoir échouer. Il y en a qui ont peur de ça. Je pense qu'il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à se relever. Et pour moi, le succès vient du nombre de fois où t'as échoué, je pense, et que tu t'es relevé après ça, que t'as continué, que t'as appris. Il y en a l'échec pour qui c'est très mal vécu et donc ça. Si t'as peur d'échouer, t'auras peur d'essayer. Donc il y a ça, il y a le côté aussi au niveau de l'éducation, je pense qu'on a, de nos parents, de l'environnement qu'on a. Je sais pas, moi mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Je pense que ça m'a rendu adulte plus jeune que prévu et voilà quoi. Enfin il y a des choses dans la vie qui font que
ça a créé une envie chez toi, une sorte de...
Non, c'était pas une envie, ou... c'était juste où je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne mes décisions pour moi si je voulais ce que je voulais dans la vie. Je me suis aperçu en fait très rapidement qu'il y avait pas fallait pas attendre que quelqu'un te tende la main pour que quelque chose arrive.
C'est intéressant ce que tu dis, la prise de décision. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, et moi, tu sais, j'ai fait une école de commerce, et je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait qu'elle écoutait Nouvelle École et que qu'elle avait le sentiment qu'elle avait jamais pris vraiment de décision pour elle de sa vie d'étudiante, quoi, et même à l'école avant. Et je pense que c'est la même chose. Je me demande si les décisions, c'est pas comme un muscle que tu travailles, et plus tu prends des décisions, plus tu vas, tu sais, arriver à aller vers ce qui te plaît, vers ce que t'aimes, parce que chaque fois t'es obligé de déjà de fermer des portes et puis de réfléchir à ce dont t'as envie, tu vois. Alors que si tu te laisses guider sur les rails, t'as beaucoup moins de chances de tomber au bon endroit. J'ai ce sentiment là.
Ouais, non, c'est clair quoi. Mais il y a aussi un environnement. Moi, par exemple, quand je programmais au lycée, personne ne savait que je programmais. Je me suis dit de toute façon, je pouvais en parler à personne parce que ils comprendraient pas. Et de deux, ils me diraient mais qu'est-ce que tu, enfin. Il y a toujours le terme geek n'existait pas à l'époque, quoi, mais en gros, je faisais partie de ces gens-là, mais je voulais pas être catégorisé comme ça, et je pense qu'il faut juste s'ouvrir en fait, quoi, un petit peu plus, et surtout aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment tellement facile d'avoir accès à l'information avec Internet que trouver quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse, je pense que il y a quand même, je regardais YouTube, il y a des vidéos sur tout ce que tu veux, quoi. Enfin, sur des mecs qui font des billes, des courses de billes, des mecs qui font des bagues, des mecs qui font du surf, de ce que tu veux, quoi. Il y a tellement de choses complètement différentes qu'il y a moyen quand même d'être vachement exposé aujourd'hui par rapport à je sais pas, il y a quelques années, quoi. Donc, mais je pense qu'il y a une question de tempérament. Je pense vraiment qu'il y a une question de tempérament. Même moi, mes enfants, j'ai 3 enfants, je vois bien qu'ils sont différents. Et je vois bien que de mes 3 enfants, ils ont pas la même approche, ils vont pas avoir la même assurance pour pouvoir forcément dire ok, mais je vais essayer ça, même, et puis on verra bien où ça m'amène, quoi. Donc voilà.
Alors justement, c'est une question que je voulais poser beaucoup plus tard, mais parlons-en. Comme on est sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu essaies de créer? Qu'est-ce que tu essaies de transmettre pour te dire que tes enfants ont le plus de chances justement de trouver quelque chose qu'ils aiment, de trouver leur place en fait?
Ben, pour moi, ce qui est important, c'est que, je trouve que comme j'ai dit, l'échec, c'est vachement important. Pour moi, quand ils ont une mauvaise note à l'école, c'est, je suis pas content, mais presque. Parce que je pense que, il y a ce côté pour moi où, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a un truc que t'as mal fait ou tu t'es planté et tu...
Beaucoup de fois.
T'es mal, quoi. Tu le vis pas bien et tu dois vivre avec ça pendant plusieurs jours et ça t'emmerde. Ça passe. Mais je pense que c'est vachement important d'avoir ce sentiment et de s'en souvenir, quoi, de comment tu te sens, juste pour toi, pour pouvoir essayer d'avancer mieux la prochaine fois ou de prendre des meilleures décisions ou etc., quoi. Et je pense que c'est... j'aime bien ce côté de encore une fois, quoi, de pas se sentir toujours à l'aise, en fait, parce que si tu te sens trop à l'aise, tu pourras pas aller vraiment dépasser tes limites, quoi. Et je pense que pour moi c'est important qu'ils aient ce côté un petit peu pas très manque d'assurance ou qui vont te forcer un petit peu à aller au-delà. Après, pour moi, ce que tu donnes est vachement important, dans le sens où j'ai passé des heures et des heures et des heures à programmer t'as pas idée, quoi. C'était j'ai fait une année de fac, en fait, où après le lycée, où je suis pas allé à la fac, en fait. J'ai programmé des heures et des heures pendant un an, en fait, quoi. Et j'ai appris énormément, mais j'ai mis beaucoup de moi-même dans ce que j'aimais, quoi. Et je pense que je veux surtout pas que mes enfants pensent que tu peux arriver à quelque chose sans y donner beaucoup de toi-même. Ça n'existe pas, quoi. Je crois que la qualité vient par ce que les gens font et la quantité de travail de passion qui fournissent, en fait.
Ouais, j'avais lu dans un bouquin sur comment écrire de la fiction, je sais pas quoi, une fille disait si tu t'occupes de la quantité, quelque chose s'occupera de la qualité. C'est comme une sorte de force supérieure, tu vois. Mais qu'en gros, qui disait que la quantité, c'est presque la condition sine qua non à faire quelque chose de qualitatif ensuite, quoi.
Ah ouais, complètement. Ah ouais, ça c'est clair, quoi. Je pense que si t'aimes quelque chose, il faut le faire beaucoup et encore et encore et encore et encore. Je dis toujours, il y a des gens des fois qui me demandent, ouais, comment on démarre, etc. Qu'est-ce que je dois faire pour rentrer dans l'industrie du jeu vidéo? Et je leur dis toujours, ok, déjà commence par un truc simple. Commence par un truc simple et puis copie quelque chose. Il y a des gens, ils attendent d'avoir une super idée avant de pouvoir se lancer. Alors ça, pour moi, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont besoin d'une super idée, quoi. T'auras jamais une super idée le premier coup, quoi. Si c'était aussi facile d'avoir une super idée, je pense que tout le monde le ferait, quoi.
Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas. Moi, j'ai longtemps été dans ce cas, à chercher des idées, à pas savoir où j'allais, à chercher un peu dans tous les sens et à me dire, mais il me faut une super idée. Alors, j'allais faire des listes d'idées, ce genre de choses. Et j'ai remarqué, moi, c'est une chose que j'aimerais me dire si je pouvais revenir dans le temps, c'est arrête de chercher des idées et commence à faire un truc qui t'intéresse, n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est en construisant là-dessus que tu vas trouver des bonnes idées. Et c'est en faisant beaucoup, même si c'est pas exactement ce que t'aimes, le fait de le faire beaucoup va te permettre de te rapprocher de ce que t'aimes, je trouve. Tu sais, il y a un côté.
Ça va t'ouvrir les yeux sur d'autres choses qui vont t'aider à clarifier ce que tu veux, ce que t'aimerais faire, quoi. Y a un exemple très simple, enfin avec Naughty Dog. The Last of Us n'aurait pas pu exister sans Uncharted, et Uncharted n'aurait pas pu exister sans Jack and Daxter, et Jack and Daxter n'aurait pas pu exister sans Crash Bandicoot. Ils ont tous été nécessaires pour en arriver là, quoi. Tous les jeux qui ont été faits au fil des années, si t'enlèves une série, on peut pas passer de Crash Bandicoot à Uncharted directement. C'est juste pas possible, quoi. Et peut-être qu'au fond de nous-mêmes, quand on bossait sur Jack and Daxter, peut-être qu'Uncharted et The Last of Us c'était là, quoi, mais ça aurait été impossible de vouloir faire ça. Ça aurait été trop gros et trop. On aurait manqué d'expérience. On n'aurait pas. On serait planté, quoi. Et je pense que c'est vachement important d'apprendre par l'expérience aussi, de faire des choses simples au début, de se lancer. Ça te permet aussi de faire donc toutes les erreurs dont tu auras besoin de faire, et ça te permettra, quand tu veux faire un truc plus gros, d'être vachement plus prêt pour ça, plus équipé, et puis de pas faire toutes ces erreurs qui sont assez simples au début, parce qu'après tu feras d'autres erreurs parce que tu t'es fixé la barre encore plus haut, quoi. Donc ouais, enfin, pour moi ça, c'est important de monter graduellement, quoi.
Monter graduellement,
ouais je pense, ouais.
Dans quelle mesure tu crois justement que le fait d'avoir été entrepreneur ça t'a aidé ensuite, parce que chez Naughty Dog, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais t'es arrivé en 2002. Je crois qu'en 2005, t'es devenu co-président à la suite d'un remaniement qui a fait qu'il y a eu cette super opportunité et que t'as pris la co-direction du studio, quoi. Mm-hmm. Et pendant une dizaine d'années, il y avait 100 personnes.
200 même, plus de 200 à la fin.
Plus de 200 à la fin, voilà, sous ta direction pour quand même produire certains des plus gros jeux de ces dernières années, quoi. Mm-hmm. Et est-ce que tu crois que le fait d'avoir été entrepreneur avant ça, ça t'a aidé justement?
Alors, si j'utilise la même analogie en fait avec les jeux de Naughty Dog, je pense que si j'avais pas fait de la démo, j'aurais pas été la même personne non plus. Et je quand j'ai commencé à faire de la démo, quand je t'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à programmer, c'est vrai, mais j'ai aussi appris à cette époque-là à travailler avec d'autres personnes en fait qui avaient pas le même talent. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'ai dit ça vraiment tout au début, quoi. Et c'est un truc qui m'a plu toute ma carrière en fait. Et je pense que si j'avais pas eu cette expérience, ça aurait été dur pour moi de créer une boîte en fait quand on était en France. Et après, ça aurait été dur pour moi d'arriver à Naughty Dog et de pouvoir communiquer avec des gens. Donc, je pense que pour moi, tout est vraiment lié en fait. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi en fait. Je dis, c'est un truc que je pense vraiment. Il y a des gens qui sont bons à être des leaders ou des managers, je sais pas comment tu veux appeler ça quoi, et d'autres qui ne le sont pas. Moi, je pense pas que tu puisses devenir un bon leader si c'est pas un truc que t'as en toi. Je pense que j'ai ce truc-là pour moi où quand on faisait les démos, c'était moi qui lidais pas mal quoi l'effort de l'équipe. Quand on a fait la boîte, c'était pas mal moi qui lidais l'effort au niveau des jeux qu'on faisait, etc. Et après, ça a été la même chose à Naughty Dog. Bon, au début, quand je suis arrivé, les quelques premiers mois, je parlais très mal anglais, j'étais super intimidé, quoi. Et après, mon naturel a pris le dessus, quoi. Où j'ai commencé à dire aux gens, ok, ouais, non, ça va être comme ça. C'est à ma manière et suivez-moi, quoi. Et puis les gens, au fur et à mesure, ils voient que tu y arrives, et ils te font confiance, quoi. Voilà, mais c'est juste mon tempérament, en fait, quoi. Je cherche pas à être le boss de quelqu'un, hein, forcément. C'est pas ça. Hein. C'est juste que si je pense quelque chose et je pense que ça sera mieux, je le dis et je fais en sorte que qu'on y arrive comme ça, quoi. Pas forcément pour moi avoir raison. Hein. C'est pas le but ultime.
Tu crois que les gens qui veulent, mettons que quelqu'un veuille faire comme toi, en fait, se disent j'aimerais bien aller bosser dans un studio qui développe des jeux vidéo, puis avoir un rôle à responsabilité pour avoir vraiment un impact sur ce qui va sortir. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, bah, commencer en entreprenant dans son coin, en montant son propre truc, en faisant ses propres projets, ou est-ce qu'il vaut mieux aller directement envoyer son CV, taper à la porte?
Alors, déjà, pour commencer, je savais pas quand je suis allé à Naughty Dog. Pour moi, comme je t'ai dit au tout début, j'étais juste content de pouvoir travailler avec ces gens-là et de bosser sur Jack and Daxter. C'était tout. Ça s'arrêtait là pour moi.
T'avais aucune ambition de monter, etc.
Absolument pas, quoi. Je savais même pas que Jason et Andy, ils allaient se barrer quelques mois après ou quelques années après, etc. J'en avais aucune idée, quoi. Pour moi, c'était juste être programmeur là-bas, c'était déjà le rêve, quoi. J'avais même l'impression que presque ça allait un peu trop vite, quoi. Donc je sais pas vraiment, en fait. Encore une fois, je pense que c'est important de se donner les moyens de faire ce que tu aimes, en fait, parce que la passion, c'est ce qui te fera bien bosser avec les d'autres personnes, parce que tu seras passionné et t'auras envie de bien faire et que tu sauras que et de savoir que tu peux pas tout faire tout seul aussi, parce que ça c'est juste plus possible. Mais je pense qu'il faut juste suivre son instinct. Après tu verras où ça t'amène. J'ai envoyé mon CV à Naughty Dog, j'avais zéro idée, quoi. Je savais même pas, quoi, si ça allait marcher ou pas, quoi.
Tu l'as envoyé parce que t'avais vu Jack and Daxter, c'est ça? Il y avait un.
Ouais, en fait, j'ai eu une petite expérience dans le sud de la France, et après, qui s'est moyennement fini. Enfin, j'avais l'opportunité pour aller en Angleterre, mais ça me faisait j'aimais pas trop Londres. Je me suis dit, bon, bah, quitte à partir, autant aller là où j'aimerais aller. Vraiment, quoi. Et pour la deuxième fois de ma vie, j'ai écrit mon CV. La deuxième fois et la dernière fois, j'ai écrit mon CV et j'ai envoyé donc mon CV à Naughty Dog et j'ai eu un coup de fil. J'ai eu un coup de fil 2 jours après, je crois.
T'étais surpris ou pas?
Ouais, carrément. Et donc là, le coup de fil s'est moyennement passé parce que à cause de la langue. Mais il y avait un programmeur qui était là-bas, qui était français. Donc lui, il m'a fait toute l'interview technique. D'une heure, quoi, et là ça c'est j'ai pas de problème, quoi.
Ce qui est trop intéressant sur l'interview technique, parce que j'ai fait mes recherches, et tu dis que en fait toutes les questions techniques qui t'ont posé, bah tu connaissais les réponses parce que t'avais appris ça en faisant justement de la démo.
Ouais,
et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça que je disais Je te demandais s'il faut commencer par ses propres projets, ou parce qu'en fait, on se rend compte que en commençant par tes projets, tes projets entrepreneuriaux, et ben en fait, t'as appris tout un tas de ouais. compétences ultra diverses et variées, et même assez pointues, quoi.
Ah ouais, non, c'est sûr. Excuse-moi, je me suis peut-être un petit peu éloigné de la question, mais ouais, non, et je pense que les gens doivent faire leur projet par eux-mêmes, et je pense que c'est super important, c'est ce que je disais, même copier quelque chose, quoi, pour moi c'est déjà un bon début, quoi. Enfin, pour te donner une idée, quand j'ai commencé à faire des démos, essayer d'afficher un carré, quoi, ou essayer d'afficher une ligne, on n'avait pas de carte graphique, il fallait calculer chaque pixel de la ligne. Enfin, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un de faire ça, il va dire, ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi, dessiner une ligne, c'est quoi? Ouais, mais bon, t'apprends énormément de choses, parce que tu peux le faire de manière où si ça te prend une seconde pour afficher une ligne, ça sera beaucoup moins bien que si jamais tu pouvais en afficher 100 par seconde, quoi. Donc, t'apprends à optimiser, t'apprends énormément de choses, quoi, en faisant ça, quoi. Ça dépend jusqu'où tu veux pousser le truc. Donc, oui, je pense que les projets perso, en plus aujourd'hui je trouve ça assez facile parce que tu peux rentrer en contact avec plein de gens qui ont la même passion que toi. Je pense que c'est super important, quoi. Il faut juste pas trop s'inquiéter, à mon avis, au début de la qualité forcément du projet. C'est important de le finir, par contre. Je pense que ça, c'est super important. Arriver à un truc, aller le boucler, quoi. Tu dis ok, ça c'est fini, on le met derrière nous, on passe à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent des choses et qui les finissent jamais. Non mais il y a quand même des choses que tu vas faire et tu vas les finir. Si tu fais un podcast, oui, que tu l'enregistres, tu vas prendre le temps après de l'éditer, de mettre tout ça ensemble et de l'upload et d'en parler, etc. Tu vas avoir fini tout le podcast, en fait, quoi. Il y a des gens qui peuvent enregistrer quelque chose et puis s'arrêter là, quoi. Donc c'est pas rien faire avec. Donc je pense que pour moi, c'est important, en fait, cette côté de finition. Je pense qu'un truc qui est dur quand tu fais des jeux vidéo, c'est de sortir le jeu. Les derniers 6 mois, c'est la guerre, quoi. Enfin, c'est super dur, c'est super intense. T'es bourré de doutes. T'as l'impression que l'équipe a l'impression que on va jamais y arriver. Tu regardes des trucs, tu dis c'est de la merde, c'est juste impossible, quoi. Et au final, si tu crois que c'est possible, quoi, tu y arrives, quoi. Enfin, si tu crois, en plus, tu travailles, quoi, pour ça. Mais voilà, ce côté-là, à la fin, pour moi, c'est toujours la règle des 80-20%, quoi. Pour moi, c'est il te faut 20% du temps pour faire 80% du boulot, et il te faut 80% du temps pour faire les 20 derniers pourcents du boulot qui va vraiment faire la différence entre un truc qui est OK et un truc qui est super bien, quoi. Si tu te donnes pas la force de vraiment se concentrer sur le dernier 20% qui va faire la grosse différence, c'est tant pis. Mais il te faut des années et des années, hein, je pense, pour en arriver là, quoi.
Mais tu veux dire qu'il faut à chaque fois, faut penser à mettre le coup de pédale supplémentaire, ouais, qui fait que ton projet passe de assez bien à très bien, c'est ça?
Ouais. Et des fois, au début, ça veut juste dire que le truc, tu le finis, quoi. Le truc, il est terminé. Si tu commences à faire un jeu, tu fais en sorte qu'il y ait un écran au début qui dit OK, que tu choisisses ta partie et que tu finisses, et que t'as un game over et que t'as toute la boucle et le jeu fini. Non, si le jeu en lui-même est pas génial, OK, mais au moins le jeu est fini, quoi. Et après, tu passes à autre chose. T'as appris quelque chose et puis tu te donnes une ambition un peu plus grande et au-delà de ce que tu as fait la dernière fois, et puis tu recommences.
Quand tu es arrivé chez Naughty Dog, tu t'es senti comment par rapport au niveau des autres? Est-ce que tu t'es dit ça va, je suis bon? Est-ce que tu t'es dit je suis nul? C'était comment?
Très intimidé. J'ai été mis en confiance relativement rapidement parce que on m'a dit que je suis arrivé, et en fait, donc ils avaient un langage de programmation qui n'était pas un langage commun, en fait, c'était un autre truc qu'ils avaient développé. Et on m'a dit que...
C'était le truc de...
De Andy Gavis, Goal, ça s'appelait.
Le Goal Lisp, là, voilà. Le Lisp Goal, ça?
Ouais, okay. C'est ça, ouais.
Attends, c'est Lisp Goal orienté, un truc comme
voilà,
ça.
Voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est du Lisp, en gros. Donc j'étais apparemment, après 7 jours d'être arrivé à Naughty Dog, j'avais déjà réussi à programmer un truc en Goal, un truc qui était déjà dans le jeu, etc. Et on m'a dit, alors là, pff, Personne n'a jamais fait ça, quoi. On m'a dit, t'as été le mec le plus rapide à programmer quelque chose dans le jeu en aussi peu de temps, quoi.
Comment ça se fait que t'as été le mec le plus rapide à faire ça?
Je sais pas, j'en sais rien.
Tu t'es pas bossé 24 heures sur 24 pendant une semaine?
Non. Je pense que je. Enfin, ok. Il y a un truc, je pense, qui m'a vachement servi dans ma vie, c'est que le premier langage de programmation que j'ai appris, c'était l'assembleur. Donc c'est en gros le langage machine, etc. Et en fait,
le plus bas niveau.
Voilà, le plus bas niveau.
Si tu sais faire ça, t'es tout en bas et tout ce qui est au-dessus, c'est des couches d'abstraction.
Voilà, exactement. Donc ça te paraît vachement plus simple en fait. Et j'ai fait de l'assembleur pendant mes je sais pas les 5 premières années où j'ai programmé, c'était quasiment que de l'assembleur, quoi. Et après, quand t'es exposé à d'autres langages comme le C ou C++ ou d'autres trucs, quoi, tu dis wow, ok, c'est bidon, quoi. Et donc du coup, je pense que ça m'a vachement aidé pour me sentir à l'aise avec un nouveau langage. Et puis, j'ai compris rapidement. Je crois que c'est un truc que j'ai pour moi, quoi. Je comprends les choses relativement rapidement. En fait, j'ai pas besoin d'y passer beaucoup de temps pour capter quelque chose. J'assimile les choses peut-être comme ça, quoi, sans trop d'efforts, quoi, des fois. Et donc ça m'aide pas mal, quoi.
Et quand les gens qui dirigeaient sont partis et qu'on t'a proposé de devenir coprésident et que ça faisait, je crois, 3 ans que t'étais là, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Déjà, est-ce que tu as hésité? Est-ce qu'à un moment t'as pensé à dire non parce que ça te faisait peur ou que ça avait l'air trop difficile?
Non. Peur, non. Trop difficile, non. J'ai pas dit oui tout de suite parce que je pense que c'était quelque chose qu'il fallait que j'en parle avec ma femme. Parce que ça aurait une implication sur mon emploi du temps, etc. Parce que je me doutais que ça veut dire qu'il faut que tu sois vachement disponible pour tous les gens de la boîte, quoi. Mais même ça, quand je te disais que je suis pas trop carriériste, même ça, quoi, j'ai pas cherché à savoir où est-ce que ça allait aller à ce moment-là. Naughty Dog était pas au top. Quand j'ai pris la coprésidence, il y avait beaucoup de problèmes techniques dans la boîte. On était en train de transitionner de la PlayStation 2 vers la PlayStation 3. C'était le bordel. C'était même pas top du tout. Et on avait plein de gens qui démissionnaient. Enfin, c'était vraiment le boxon, quoi. Et je me suis juste dit, ok, bon, bah, voilà ce que moi je ferais pour fixer le problème, et j'ai juste fait, j'ai suivi mon instinct par rapport à ça. Et puis j'ai eu de la chance d'être avec Evan Wells, avec qui on s'entendait super bien. Lui son background c'est le côté design, donc on avait toujours il y avait moi le côté pragmatique et lui le côté un petit peu plus créatif, qui a été un super équilibre, qui a toujours super bien marché entre nous deux. Et puis voilà, quoi, on a juste fait les choses comme nous on le pensait, quoi. Pas en temps forcément que je dis un truc. Il y a un truc souvent pour moi Naughty Dog qui fait la différence entre une autre boîte, c'est que le parcours des mecs qui sont au top de la boîte, c'est pas du management, c'est pas
de la production.
Ouais, c'est purement on va prendre des décisions pour la boîte avec un esprit de designer ou un esprit de programmeur. Et je pense que ça fait une énorme différence. Et on prend vachement en compte le projet. On sait ce que les gens font. Moi, pendant des années, à cette époque-là, quand j'ai pris la coprésidence, je programmais énormément. Donc, tu sais vraiment ce qui se passe, quoi. On avait tous les deux vachement les mains dans le cambouis.
Et donc, je veux dire que tous les, même les managers sont des faiseurs, en fait.
Ouais, ça, c'est clair, quoi. Et même jusqu'à ce que je parte, je programmais encore, etc., quoi. Moi, même à l'époque, je me suis même enfermé dans mon bureau pendant 2 semaines pour réécrire tout le tools pipeline parce que c'était le bordel. Et je pensais que c'était ça qui allait redonner confiance à l'équipe, etc. Et ça a marché. Mais non, c'était vache. Pour nous, c'est super important que les gens mettent toujours la main à la pâte. Et je crois pas trop aux gens qui sont que managers. Quand quelqu'un me dit ouais, j'aimerais devenir manager, en gros arrêter ce que je fais, c'est que un, je pense que ce qu'ils aiment, ils aiment pas vraiment ce qu'ils font. Et dans ces cas-là, je pense pas qu'ils puissent être bons à ce qu'ils font en ce moment. Et puis si ton but c'est de devenir manager, c'est un peu ennuyant, quoi. Enfin, c'est un peu, ça veut dire que tu vas prendre des décisions qui vont aller dans ce sens-là, et ça veut dire que tu vas certainement finir par être un mauvais manager. Et moi, c'est un truc qui me donne un peu des frissons dans le dos et j'aime pas trop, quoi.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Je trouve ça assez énorme, enfin, on va en parler, mais en gros, quand t'es arrivé chez Naughty Dog et que tu prends la coprésidence, t'arrives un peu à... Moi, ça me fait penser, dans les films américains, les équipes qui envoient les fusées sur la Lune, tu sais, ils sont tous dans une salle et le projet est immense, tu vois, et ça a 1 milliard de chances de rater, et t'as des centaines de personnes qui sont dessus. Et je me disais, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est un peu un truc que j'ai l'impression de perdre, pour le coup, en faisant mes projets, c'est que je me dis, tu sais, t'as vraiment des grosses structures, des grosses boîtes qui font des projets gigantesques, et une fois que tu arrives à les mener à bien, tu sors des choses qui vraiment impactent le monde, mais dans le sens où moi, quand j'étais petit, je jouais à Crash Bandicoot, quoi. Mm-hmm. et je jouais à Crash Team Racing. Bon, c'était craqué, hein, je pense qu'on peut le dire maintenant, il y a prescription, mais est-ce que c'était important pour toi, est-ce que c'est un truc qui est important pour toi de travailler sur des choses qui vont justement avoir cette espèce d'immense impact sur le monde, tu sais, te dire qu'il y a il y a 20 millions de personnes qui ont joué à Uncharted, ce genre de choses.
Oui, oui et non. Ça fait plaisir. Quand les gens réagissent sur ce que tu as fait, c'est vachement bien, mais c'est pas un truc nécessairement qui nous motive, en fait. Enfin, moi, ça me motive pas des masses. Moi, je suis super motivé. Un, par travailler avec les gens qui m'entourent. Ça, j'adore ça, quoi. Je pense que j'adore voir des gens qui ont un talent monstrueux et qui se donnent dans ce qu'ils font. Pour moi, c'est qu'ont surtout des gens avec lesquels j'apprends. Ça, j'adore ça. Et je pense aussi surtout qu'on a toujours essayé de faire des jeux auxquels on voulait jouer. Plus qu'autre chose, en fait, et que si jamais on avait un truc qu'on voulait qui paraissait impossible, et c'est souvent le genre de but qu'on se donne, et ben c'était ça c'était notre challenge. On s'est toujours mis plus de challenge à nous-mêmes que ce que des gens pouvaient raconter sur internet ou ce que Sony pouvait nous demander, même ils ne demandaient jamais grand-chose, en fait. Et donc je pense que la pression, elle est plus interne, et c'est de pas décevoir ton voisin, parce qu'il y a un équilibre, en fait. Si toi t'es un super programmeur, mais les mecs qui font les animations, ils font des animations qui sont moyennes, tu peux avoir la meilleure tech du monde, si les animations sont moyennes, ça rendra pas bien. Et inversement, si le mec il fait des super animations, mais que le framerate c'est de la merde, ça va pas rendre bien non plus. Donc tu as besoin d'un moteur optimisé. Moi, c'est ce talent qui travaille à tous les niveaux ensemble. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné et énormément motivé. Ouais, donc voilà.
Est-ce qu'il faut, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'il faut finalement pas choisir, ou alors disons quand tu sais pas ce que tu veux faire, mm-hmm. peut-être que choisir les gens avec qui tu veux être, c'est une bonne alternative de choix.
Complètement.
Tu ouais. dis juste, ouais.
Oh ouais, non, c'est sûr. Moi, pour moi, je peux pas prendre le crédit sur ce qui m'est arrivé à 100%. C'est juste pas possible, quoi. Je pense que, mais même pas à 50%, quoi. Enfin, parce que les gens avec qui j'ai travaillé, ça, pour moi, c'est ce qui a fait la différence aussi dans ma carrière, quoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort à quelque chose que toi. Il y a toujours quelqu'un qui. Et je le dis toujours, même quand il y a des programmeurs que j'ai embauchés à Nutiac, je leur dis, ouais, même si tu penses que t'es le meilleur à ce que tu fais, je t'assure que tu tu apprendras toujours quelque chose ici. Il y aura toujours quelqu'un qui sait quelque chose que toi, tu ne sais pas. Et c'est ce qui rend l'environnement vachement, vachement sympa et motivant. Et je pense que ouais, ce que la manière dont tu t'entoures, ça fait une grosse différence dans ton propre succès à toi en fait.
Alors il y a quelque chose qui m'intéresse sur, dans le fait que vous ayez réussi à sortir des hits comme ça à la suite en série, c'est que vous aviez l'air d'avoir une philosophie un peu différente dans votre studio. Alors déjà premièrement, Sony avait pas l'air de trop vous embêter.
Non.
Et deuxièmement, il me semble que vous aviez pas de producteur attitré à chaque jeu. Et en quoi est-ce que ça c'est différent des autres studios? En quoi est-ce que c'était bénéfique?
Ok. Alors, Sony, je crois qu'ils ont toujours été très intelligents à nous laisser fonctionner comme on a eu envie de fonctionner. Ça aurait été dur de justifier qu'on devait changer quoi que ce soit parce qu'on a été au fil des années relativement, on a eu pas mal de succès. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu qu'on change quelque chose. Et on n'a pas, on n'avait pas de producteur, on dit en français.
Ouais, je pense.
Producteur, ouais, bon. parce que encore une fois, c'était la philosophie qu'on avait en haut de la boîte, en haut de l'échelle, quoi. Où nous, il fallait qu'on prenne des décisions basées sur le côté pragmatique des choses. Et j'ai tellement vu de cas où les producteurs au final ils arrivent en fait à se créer un métier en fait dans le milieu du jeu et au final ils vont être in the way, je crois qu'on dit ça en français, ils vont être là, ils vont gêner parce qu'au final au bout d'un moment ils vont se faire chier, donc ils vont créer des meetings en plus pour pouvoir s'occuper. Et puis je déteste les meetings, je ne supporte pas les meetings, quoi. C'est pour moi c'est horrible, quoi. Ou les longs emails. Quand quelqu'un m'envoie un email et s'il y a plus de 2 paragraphes, je le lis pas. Je leur dis, je l'ai pas lu, tu viens me voir. Surtout s'ils sont à 10 mètres de moi, je supporte pas ça, quoi. Et ça crée un environnement où tout est à propos de ces meetings et du schedule. Et en plus, les producteurs souvent ne connaissent pas, en fait, ne savent pas ce qui est possible. Donc ils vont dire aux autres, non, mais ça, c'est pas possible à faire. Eh ben oui, et c'est pas possible, et c'est bien pour ça qu'on veut essayer de le faire. Parce que si on faisait que des trucs qui étaient possibles, eh ben on ferait des jeux de merde. Donc soit on se met la barre super haut et on vise quelque chose qu'on pense qui est impossible à faire pour justement pouvoir s'en approcher le plus possible et pouvoir être super fier de ce qu'on fait et pouvoir fournir une super expérience, ou alors on se la joue super safe et puis on est là, on dit ah bah non, ça rentre pas dans le schedule, et puis bah tu risques rien, quoi, tu tentes rien et t'auras jamais un truc super à la fin, quoi. Donc pour moi les producteurs ça reste quelque chose de relativement au quotidien, des gens qui sont là dans l'environnement du développement, ça reste quelque chose de relativement néfaste en fait, et je leur fais pas confiance.
Tu veux dire que, parce que moi, je sais pas si j'ai une bonne vision de l'univers du jeu vidéo, parce qu'il y a quand même un moment où j'ai commencé à moins y jouer. Et en fait, The Last of Us, c'est un peu une anomalie, parce que on m'a tellement dit c'est bien The Last of Us, que j'ai retrouvé ma play, j'ai téléchargé, je crois que vous aviez fait une version PS4, ou peut-être que je sais plus comment ça s'était passé, et j'avais passé, bah voilà quoi, je l'ai branché, et je l'ai fini, je crois, dans la même, j'ai pas arrêté d'y jouer.
Ouais.
Et ça m'a rappelé les jeux auxquels je jouais qui me marquaient, comme quand j'avais joué à Metal Gear Solid il y a une quinzaine d'années avant, et ce genre de jeux que j'avais l'impression de moins découvrir. Est-ce que c'est parce qu'il y a, alors est-ce que c'est premièrement peut-être parce que je joue pas assez à des jeux, ou est-ce que c'est parce que parfois il y a une vision artistique moins forte et justement trop d'intérêt peut-être économique qui entre en jeu, ou de la peur de ne pas se rater qui prendrait le pas sur l'envie de faire quelque chose de nouveau et de différent.
Ouais, c'est vrai. Je pense que on était dans une situation spéciale où justement on a eu du succès auparavant, ça nous permettait en fait de pouvoir prendre ce genre de risque. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, c'est une histoire d'étape, quoi. Et puis un jour, tu t'en arrives là et tu peux te permettre ça. on n'a pas été, on n'a pas fermé les yeux quand il s'agit de prendre un risque, même au niveau de l'histoire qu'on allait raconter, du genre de jeu qu'on allait faire. Pour nous, on a toujours fait des jeux qui étaient pour les teenagers, qui étaient rated T. Alors, je sais pas comment c'est en France, ou 16 et moins, ou je sais pas exactement comment ça marche en France. Et là, c'était un gros pour nous de faire un truc qui était mature. C'était un big deal, quoi. Enfin, on s'est dit OK, on va faire un truc un peu plus grounded, enfin un truc peut-être un petit peu plus en rapport avec la réalité. Donc là, on a pris des risques à ce niveau-là. Et puis Bruce et Neil ont fait aussi un super boulot en créant l'univers et tout ce qui allait avec au niveau des persos, de l'histoire, du gameplay, etc. Ils ont fait un boulot phénoménal. Et puis, on était prêts à prendre le risque pour raconter quelque chose d'un petit peu plus profond aussi, quoi, parce que aussi la technologie nous permettait. Si jamais on avait essayé de raconter la même histoire à l'époque de la PS2 ou de la PS1, ça aurait été plus difficile parce que tu peux pas faire passer les mêmes émotions. Quant à la scène du début, avec Joel qui perd sa fille. Si tu fais ça avec 10 fois moins de polygones et pas un super éclairage, c'est pas la même chose. Il y avait aussi la technologie qui nous a permis en fait d'en arriver là et de pouvoir faire passer en fait toutes ces émotions.
C'était stimulant toi, c'était quelque chose que tu recherchais, être un peu à la frontière technologique, parce que dans les jeux vidéo, pour le coup, vous êtes vraiment en général à ce qui se fait de plus poussé, quoi. En termes de techno, toi, en tant que développeur, en tant que programmeur, c'était.
Ouais, ça a toujours été super, super passionnant de pouvoir être à la pointe de la technologie. Mais j'ai toujours dit la technologie, juste pour la technologie, c'est pas très intéressant en fait. Ça a toujours été motivé par des designers qui voulaient arriver à faire quelque chose, ou des artistes, des mecs qui faisaient les environnements, qui voulaient réussir à créer quelque chose de spécial, ou tout le côté artistique en fait était là.
Même pour des scénaristes en fait, parce que vous aviez des scénarios poussés sur vos jeux.
Ouais, non, bien sûr, ouais. Enfin, c'est un design, ouais, j'inclus aussi les scénaristes dedans, quoi. Et donc c'était tout ce côté-là en fait qui a amené en fait à faire les choix au niveau de la tech, de ce qui était important et de ce qui n'était pas important. Donc ça a toujours été et ça m'a toujours plu en fait de faire la tech qui était nécessaire pour arriver à faire ce qu'on voulait faire, mais pas plus, et pas essayer à faire des trucs qui servaient à rien ou juste pour faire voir, etc., quoi. Donc j'ai toujours été super fier de ça en fait, du fait qu'on était toujours motivé par la qualité du jeu qu'on allait faire en fait, et pas autre chose. Pour nous, on parle toujours à Naughty Dog du project, le projet en fait. Le projet, c'est qu'est-ce qu'on prend toujours des décisions. Est-ce que ça va aider le projet ou est-ce que ça va pas aider le projet? C'est toujours là où, au final, où ça en vient, quoi. Est-ce que le jeu va être meilleur ou est-ce que le jeu ne va pas être meilleur? Si le jeu va être meilleur, il faut qu'on le fasse. C'est aussi simple que ça, quoi. Et ça a toujours été comme ça depuis des années et ça a très très bien marché.
Ça, c'est un bon système de décision. C'est comme ça me fait penser à je sais pas si tu connais, il y a un bouquin d'article qui s'appelle Simon Sinek, qui s'appelle Start with Why. Et dans ce bouquin, il t'explique que pour prendre des décisions, c'est bien de voir pourquoi tu fais les choses. Et donc là, pour votre jeu, pourquoi vous le faites? C'est pour que le jeu soit bien, le jeu soit mieux. Mm-hmm. Et en fait, ça aide beaucoup d'avoir ce genre de système de décision très très simple, je trouve.
Ouais, non, c'est clair, quoi.
Parce qu'il y a énormément de choses ensuite qui viennent et qui troublent ta prise de décision, parce que parfois, t'as l'impression que c'est des bonnes idées et il faut revenir à ce truc très 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 basique.
Le truc premier qui va empêcher, c'est l'ego des gens, hein. Et ça, on le dit tout le temps aux gens. On leur dit il faut que vous mettiez votre ego de côté. Si on prend une décision, ça n'a rien à voir avec essayer de favoriser l'un ou l'autre. C'est juste parce que c'est qu'est-ce qui va mieux servir le jeu qu'on est en train de faire, en fait. C'est tout, quoi. Et les gens sont vachement ouverts là-dessus à Naughty Dog, quoi. On dit quand on embauche les gens, et ça c'est un truc qui est constant, quoi. Enfin, faut pas forcément s'attacher énormément aux idées que à ta première idée, quoi. Juste parce que c'est toi qui l'as eu et que tu penses que c'est parce que c'est bien, et que il y a des fois tu te rends compte qu'au final OK, c'était pas la bonne décision et c'est OK, quoi. C'est pas un problème, quoi. On dit souvent aux gens d'ailleurs, si tu fais quelque chose et que tu t'y arrives du premier coup, c'est que t'as pas été assez ambitieux, en fait. C'est que t'as pas visé assez haut. Si il faut que tu vises plus haut, quoi. C'est pas possible que tu arrives du premier coup à faire quelque chose. Ou alors, c'est que ça sera pas assez bien. Et pour nous, c'est normal d'échouer et de d'essayer quelque chose plein de fois avant d'avoir un résultat qui claque. Et ça, c'est on veut que les gens passent le temps à faire ça. C'est vachement important pour nous.
Oui, il y a déjà qu'il y a un gros élément de patience et de répétition.
Ouais. Ben, de répétition, quoi. Ouais, et puis de. C'est intéressant d'essayer de résoudre un problème qui est pas évident en fait. Et généralement, si tu arrives à résoudre ce problème, c'est que ça va amener d'autres choses, ça va amener d'autres choix aux gens qui sont qui travaillent avec toi, parce que ça va leur ouvrir de nouvelles portes, des trucs qui n'ont pas été faits avant, etc. Enfin, ça aide la créativité aussi des autres en plus de toi. Donc, si on se limitait à des trucs encore une fois qu'on savait faire, ça serait pas, on n'irait pas bien loin, quoi.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Naughty Dog, du coup, c'est que tu avais le sentiment d'avoir fait le tour de ce challenge-là?
Ouais, j'ai fait. Bah, ça fait 15 ans que j'y étais. J'ai sorti quand même pas mal de jeux depuis que j'y suis. Je pense que le succès qu'on a eu a été pas très prévisible et super très surprenant pour moi, quoi. On peut peut-être faire mieux, mais je sais pas si on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, quoi, au niveau du succès. C'est pas forcément un succès commercial, hein. C'est le succès plutôt comment est-ce que les gens ont perçu les jeux et la qualité de ce qu'on a fait.
Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je crois qu'Uncharted ou The Last, je sais plus lequel, c'était 9 dans The Last of Us, c'était 95% sur Metacritic. C'était des, je sais pas si les gens qui écoutent savent ce que ça veut dire, mais c'est quand même des très 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 gros scores.
Ah ouais, les Uncharted c'était 92, 93, enfin ouais, c'est des très 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 gros scores. Ouais, non, c'est clair, quoi. C'est sûr, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je pense que je suis pas sûr que j'avais encore la passion, parce que j'étais là depuis pas mal de temps, et ce qui m'embêtait en fait, c'était de si je perds un peu de ma passion, je trouverais pas ça très honnête par rapport aux gens qui sont là et au rôle que j'ai de pas pouvoir si je perds de la passion, ça veut dire que je ferais peut-être moins bien mon boulot, et ça m'embêtait. Ça m'embêtait énormément. Alors tu peux rester et puis continuer à gagner de l'argent, mais je trouve pas ça très très cool. Je me dis aussi que j'ai eu la chance de d'avoir cette opportunité de pouvoir diriger Naughty Dog, donc peut-être qu'aussi si moi je pars, peut-être que d'ici quelques années ça donnera la chance à quelqu'un d'autre, et je pense que c'est important. Je serais content d'avoir que quelqu'un d'autre ait la chance que moi j'ai eu d'avoir. Et puis j'ai fait pas mal de sacrifices quand même au niveau de ces années où ma famille a fait pas mal de sacrifices et m'a laissé faire pas mal de choses. Et puis j'avais l'opportunité de pouvoir aussi passer un petit peu plus de temps avec ma femme, mes enfants avant que qu'ils grandissent trop et qu'ils partent de la maison. Donc j'ai fait le choix de m'arrêter là. Et puis j'ai d'autres projets perso, pas des trucs aussi ambitieux. Je sais même pas où ça va m'amener, mais voilà, des trucs que je voulais, sur lesquels je voulais me passer du temps pour moi, quoi. Donc voilà, c'était une décision de plein d'éléments, mais enfin Naughty Dog, c'est pas comme, je me suis pas barré en me disant voilà, ça part en sucette, c'est une catastrophe, pas du tout, quoi. C'était juste moi, juste par rapport à moi, en fait.
Ouais, parce que t'as fait un site qui s'appelle Obstree.
Ouais.
Ça se dit Obsessed Triathlete.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, ah oui, je n'ai pas mentionné ça. Tu es un athlète.
Ouais, je fais du triathlon.
Ouais, et tu fais des Ironman surtout.
Ouais, c'est ça.
T'en as fait plusieurs.
Ouais, donc, j'ai fait plusieurs d'Ironman et de Half Ironman, ou les 70.3 ou 70.3, je sais pas comment on appelle ça en France. Ouais, non, je fais pas mal de triathlon, pas mal de choses pour moi. Donc, j'ai écrit un site parce qu'il y avait un truc que j'arrivais pas à trouver sur le web, et donc ça m'a saoulé, donc je me suis dit bah je vais le faire. Donc voilà. Mais tu vois, c'est genre de projet, je le fais juste parce que j'aime ça, en fait, quoi. Peut-être que ça m'amènera quelque part, non? Peut-être que ça m'amènera quelque part, mais j'en sais rien, en fait. Je le fais pas.
Mais de la même manière que tu faisais des démos parce que tu aimais ça.
Voilà, exactement. C'est exactement ça, quoi. Et donc
là, encore une fois, tu fais ce que t'as envie d'avoir, là, comme tu disais tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. C'est comme le jouer, créer les jeux que t'as envie de jouer, ou alors faire des choses créer des choses qui n'existent pas et que tu aimerais bien avoir pour toi. Et puis au final, tu te rends compte que tu n'es pas le seul à vouloir ça et qu'il y a d'autres gens qui l'apprécient, quoi. Donc, j'ai créé ça. J'ai créé aussi un autre site pour... je bosse avec un coach de natation qui est reconnu dans le monde du triathlon, enfin, dans le monde entier même. Et enfin, j'ai de la chance, c'est mon coach de natation ici, quoi. Et donc, du coup, j'ai créé un site pour lui pour qu'il puisse délivrer tous ses... ces workouts ou ces sessions en fait dans le monde entier où les gens peuvent s'abonner, etc. Donc j'ai créé ça aussi. Ça, j'en parle un peu moins parce que c'est vraiment spécifique, quoi. Mais donc voilà, donc j'ai eu pas mal de choses, des trucs comme ça, mais des trucs juste qui me passionnent, qui partagent mes deux passions du triathlon ou et puis de la programmation, voilà, quoi.
T'as fait combien de Ironman?
J'en ai fait trois, des foules, en fait. Enfin,
attends, parce qu'on rappelons quand même, je suis pas sûr de me souvenir exactement. Alors, Ironman, ouais, c'est course à pied, c'est natation.
C'est
natation.
Natation, vélo, et après courir.
Donc, attends, si tu... et en termes de kilomètres, c'est combien déjà?
Alors, tu nages 4 kilomètres, après, tu fais du vélo pendant 180 bornes, et après, tu cours un marathon. Donc voilà. Mais après, t'as la même chose aussi, où c'est tout à moitié, en fait. Donc tu nages 2 km, t'as 90 bornes de vélo, et après tu fais un semi-marathon. Donc ça, j'en fais un peu plus souvent de cela.
Ça prend combien de temps? Tu l'as fait en combien de temps, le Ironman?
Un peu plus de 10 heures, sur les coups des 10 heures, entre 10 et 11 heures pour moi, pour l'Ironman, et puis les autres, c'est un peu moins de 5 heures, ça dépend. Mais c'est sympa.
Donc en fait, tu gardes une partie ultra performance, compétition contre toi-même, presque, même maintenant, quoi.
Ouais, il y a le côté d'être aussi, comment on dit en français, enfin, d'être pas super confortable dans ce que tu fais, où c'est dur, tu sais pas forcément ce qui va arriver le jour même, ou t'essaies de t'améliorer, mais ça prend du temps. Enfin, il y a plein de trucs, voilà, qui rentrent en jeu là-dedans, quoi. Puis c'est un petit peu un style de vie aussi pour moi, quoi. Enfin, je peux me le permettre, donc j'en profite, quoi, de pouvoir garder la santé aussi, c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est la très bonne santé là pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas des similarités avec la programmation, dans le sens où est-ce que tu trouves pas, quand tu fais des épreuves très intensives, une sorte d'état de flow? Ou justement tu te perds dans ce que tu es en train de faire, un peu comme quand tu codes et que tu vas, tu sais, qu'on dit in the zone, tu vois.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Pas exactement, ouais, s'il y a un peu de ça, ouais. J'ai jamais pensé, mais c'est vrai, ouais. C'est vrai que programmer, il y a un côté où même, enfin, je le vois bien, les artistes qu'on a à Naughty Dog, enfin, il y a des fois, ils sont dans leur truc et ils avancent, et enfin, ouais, il y a un peu ce côté-là aussi, des fois, quand tu es en train de courir, où tu pars un peu, quoi, et c'est pas mal, ouais. Mais c'est pas, je crois que j'ai plus cette sensation-là quand je programme que quand je fais du sport, quand même. Enfin, la programmation, ça doit me stimuler d'une manière un peu différente, qui fait que je rentre peut-être plus facilement en transe, entre guillemets, quoi, quand je programme que quand je fais du sport.
C'est quoi ton... Tu m'as dit tout à l'heure que tu te levais à 6 heures. Ouais. Moi, je me lève à 11 heures.
Ouais.
Mais c'est quoi tes journées en ce moment?
En ce moment, je me lève tôt parce que les gamins vont à l'école, il faut préparer le petit-déj, etc. Enfin, pour moi, c'est important de pouvoir prendre le petit-déj avec eux le matin. Puis après, généralement, le matin, je vais aller faire du vélo ou aller nager ou courir. Ça dépend de ce que j'ai. Ou un des trois, ça dépend des journées. Généralement, si je nage, c'est plutôt le midi. J'y vais avec ma femme qui fait aussi du triathlon, donc on passe pas mal de temps ensemble aussi, c'est cool, quoi. Puis après, l'après-midi, généralement, je vais commencer à programmer, à faire mes projets, à essayer des trucs, des recherches, des machins de mon côté, quoi. Donc, après, ça dépend des journées, parce qu'il y a des fois, si je suis sur un truc où je suis en plein dedans, je vais rester jusqu'à tard le soir. Parce que j'ai la tête dans le guidon et il faut absolument que je comprenne ce que j'ai pas encore compris. Et puis voilà, après, vie de famille, un peu tranquille, quoi, avec les enfants, les devoirs, dîner, etc., quoi. Mais bon, c'est pas mal d'équilibre entre se dépenser physiquement et puis garder aussi la tête qui est relativement active apprendre toujours, quoi, apprendre toujours des choses.
Est-ce qu'il y a des... des vraies zones d'inconfort, voire de doute que tu as envie d'explorer ou que tu as peur d'explorer, tu sais.
Peur, non. Non, non, encore une fois, j'ai échoué suffisamment dans ma vie au quotidien que c'est pas. Non, pas peur. Non, il y a plein de choses que je voudrais essayer. J'ai presque des fois pas le temps. C'est assez surprenant, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent pas mal. Entre côté aussi triathlon, programmation, des trucs peut-être plus poussés que des sites web. Pas mal de trucs au niveau des trucs avec les fluides, le vent, l'aérodynamisme, etc. J'aimerais bien peut-être faire des recherches à ce niveau-là. Au niveau jeu vidéo, je sais pas. On m'a proposé de revenir dans le jeu vidéo, mais pour l'instant, je pense que j'ai encore besoin de prendre un break. Mais bon, j'aime pouvoir avoir le temps maintenant de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Ça me rappelle un peu quand je faisais des démos, en fait. Quand j'avais 17 ans où je prenais le temps de faire ce qui me plaisait, quoi. Puis bon, après, par la suite, ça m'a pas mal réussi, donc on verra où c'est ce que je fais maintenant, ça me mènera.
Tu joues encore aux jeux vidéo?
Moins. Je joue. Ok. Le problème que j'ai eu avec les jeux vidéo, à un moment, c'est que j'avais du mal à trouver des jeux qui m'intéressaient autant que les jeux qu'on faisait.
Ah bah ouais, mais c'est parce qu'ils étaient trop bien vos jeux. Moi c'était pareil pour moi.
Voilà, et donc du coup c'était déjà les jeux trop longs, j'avais du mal parce que j'avais pas le temps. Tout ce qui était Skyrim ou tout ça, je me disais c'est j'ai juste pas le temps, quoi, parce que entre la vie de famille, le boulot, et puis à l'époque je m'entraînais déjà pour le triathlon, etc. Je me disais c'est même pas la peine que je m'investisse là-dedans, parce que je pense pas que j'aurai le temps de vivre l'expérience à son maximum. Et donc les jeux comme nous on faisait, les jeux un peu d'action aventure ou etc. La qualité était toujours pas là, et donc du coup ça me bloquait un petit peu, quoi. Donc donc j'ai joué beaucoup aux jeux de Naughty Dog au fil des années. Il y a 2-3 jeux que j'ai bien aimé, mais autrement je suis super sélectif, quoi, sur ce à quoi je joue, en fait. C'est très très sélectif. C'est soit j'ai une bonne vibe pour le jeu, je vais y jouer, ou alors.
C'est quoi les jeux qui t'ont marqué? C'est quoi les derniers jeux qui t'ont marqué?
Sauf les tiens, quoi. Ouais. Merde, comment ça s'appelle? Le jeu en noir et blanc, là. Le jeu de côté, là. Oh putain. Tu vois ce que je veux dire?
Je crois que je vois, ouais. Alors, moi, aucune chance que je retrouve le nom pour le coup.
Ouais. C'était un jeu, c'est un personnage qui se balade, qui fuit en fait des espèces de monstres, etc. Merde.
Ah oui, c'était un jeu sur la PlayStation qui était en téléchargement sur.
Ouais, ils l'ont sorti sur la Xbox au début, et après ça a été sur la PlayStation. C'est pas possible, j'arrive pas.
Alors, je retrouverai le nom, c'était un jeu où tu voyais en 2D un personnage qui avançait, il fallait éviter des monstres, c'était ultra angoissant, en plus, voilà, c'était hyper bien fait et tout.
Voilà, et ce que j'ai adoré sur ce jeu-là, c'est que. C'est un, les émotions qu'il faisait passer, et deux, la qualité du travail fini. Je trouvais ça super clean, quoi. Et pour moi, pour moi, c'est vachement important. Ça veut dire c'est pas forcément qu'ils ont essayé de faire un truc qui était réaliste, etc. Mais dans leur style qu'ils avaient choisi pour le jeu, c'était nickel, quoi. C'était super bien fait. Et ça, j'ai adoré cette expérience, quoi. Putain, faut absolument que je retrouve le nom de ce jeu, c'est pas possible. Et donc voilà. Donc ils ont.
Je le mettrai, de toute façon, moi j'irai le retrouver et je le mettrai dans les notes si ça intéresse les gens qui écoutent.
Ouais. Et donc ça, et ils ont fait une suite, enfin un autre jeu après ça, et ça m'a aussi vachement plu, quoi. Donc ce genre de jeux, quoi, qui sont clean et bien faits, j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est un tableau Scrum derrière toi?
Non, c'est du vernis à ongles de ma fille.
D'accord, ok.
Mais ça, non, c'est des photos. Non, Scrum, tout ça. Alors ça, tu vois, même ça, quoi. C'est le genre de truc à Naughty Dog. J'ai jamais aimé ces termes-là. Pour moi, ça a toujours été. J'aime pas trop ce qui est formaté, en fait.
Pour les gens qui écoutent, Scrum, c'est une méthode d'organisation, voilà, de management, voilà, de projet.
Voilà. Et pour moi, ça veut dire que ça va être formaté dans un sens, et j'aime pas trop ça, quoi. Je pense qu'un truc aussi qu'on a à Naughty Dog, c'est qu'on a été vachement, on a évolué en fait avec le temps et on a trouvé nos manières de faire des choses, quoi. Et je pense que c'est super important, surtout quand tu essaies de résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus encore, ou des trucs où tu es à la pointe de la technologie, etc. C'est pour ça que je pense que ça prend du temps, mais ça vaut le coup, quoi, au final, quoi. La manière dont une équipe fonctionne, je pense que ça, tu peux pas mettre, 50 personnes ensemble, même s'ils sont tous super talentueux, et dire, OK, les mecs, entendez-vous bien, et puis fonctionnez super bien, et y a un résultat énorme, quoi. Enfin, ça marche pas comme ça, quoi. Tu le vois dans plein de milieux, même. Tu regardes ça au football, c'est parce que tu mets les meilleurs joueurs d'une équipe tous ensemble que ça va être la meilleure équipe. Y a un côté où ça prend du temps pour qu'ils apprennent à jouer ensemble, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils s'entendent bien en dehors du terrain, etc., quoi. Donc, et que t'as un coach qui soit là aussi pour leur dire que leur ego est un petit peu trop et qu'il faut qu'ils se calment. Y a tout cet équilibre, en fait. Et ça prend juste du temps, en fait.
Bon, et bah, dernière question. Mm-hmm. Quel conseil tu donnerais à Christophe qui rentre chez Naughty Dog il y a 15 ans, donc?
Reste toi-même. N'essaye pas de te changer qui tu es, la manière dont tu vas interagir avec les gens. Si t'as envie de dire quelque chose, sois honnête avec les gens. Et puis reste passionné dans ce que t'aimes faire, quoi. S'il y a quelque chose que tu penses que tu dois faire, n'aie pas peur de décevoir ou d'échouer. Juste fais-le et puis tu verras bien ce qui se passera, quoi. Et confiance en toi, si t'en es arrivé là, c'est que il doit y avoir une raison quelque part. Donc juste continue et n'essaye pas de calculer, en fait. Calcule rien. Reste dans le moment et fais ce qui te pense être la bonne chose à faire. Et fais ça tous les jours. Et puis on verra. Et je pense que ça devrait être pas trop mal.
Eh ben, merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur Nouvelle École.
Ouais, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à tes anciens, nouveaux projets, si on les envoie quelque part?
Vous pouvez me trouver sur peut-être Twitter, c'est peut-être le plus simple, où je parle un peu de ce que je fais. Encore, je suis pas super bavard sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est peut-être le plus simple, quoi. Je crois que mon handle c'est @cibalestra, c'est Balestra en français. Instagram, c'est la même chose, voilà, quoi. Mais bon, je suis pas excessivement actif. Je suis un petit peu confus par tout ça, en fait. Twitter, elle est surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Il y a des gens qui parlent de sujets relativement sérieux. Et il y a des fois, je ne sais pas si on peut parler de choses un petit peu plus légères. Ouais. C'est un peu à il y a je sais pas. Je en ce moment, j'ai un drôle de feeling par rapport à tous les réseaux sociaux. C'est un petit peu bizarre pour moi. Enfin bon, mais bon, j'y suis. Si vous avez des questions sur ce que vous pensez que peut-être je sais ou je peux vous aider, n'hésitez pas.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis sans faute à 17h. À la semaine prochaine.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.